Bonjour, bienvenue à la French Connection, épisode 85. Cet épisode-ci, je suis avec Damien.
Salut tout le monde!
Et nous allons faire un retour sur les différents sons que Damien et moi, nous avons capturés pendant le FIC, sur lequel on a eu des entrevues fort intéressantes, sur lesquelles nous allons continuer. Nous allons faire du pouce, comme on dit au Québec. Donc, essentiellement, puis ça me permet l'occasion aussi en même temps de faire un peu un autre tour sur mon appréciation générale du FIC. Puis je reviens encore sur le fait, pour moi, tout le volet RGPD, c'est un énorme apprentissage. Ça a été beaucoup d'informations, ça a été très utile parce que ça m'a permis de mieux comprendre le contexte, ça m'a permis de mieux comprendre les éléments de réflexion associés à ce genre de choses-là. Et par ailleurs, j'ai eu l'occasion de assister à une présentation de justement un des architectes principaux du RGPD quand même.
Oui, c'est ça. J'ai eu la chance de participer à une conférence et donc du coup, mon cousin québécois a pu aussi participer. Et on a eu énormément de chance parce que c'était au moment où la neige était tombée en gros flocons sur l'île. Donc autant dire que c'était pas 2 mètres, hein, mais 20 centimètres, mais c'était quand même la fin du monde. Ça a beaucoup fait rire Nicolas d'ailleurs. Mais plus sérieusement, cette conférence était intéressante. D'un point, par exemple, législatif, comment ça? Eh bien, avec moi et avec d'autres intervenants, Asenfo Ferrara, c'est un directeur de recherche au CNRS. Il est aussi membre de l'Institut de recherche informatique de Toulouse et il nous a parlé de son travail dans la mise en place du RGPD, donc le fameux Règlement général de protection des données. Autant dire aussi que c'était particulièrement mis en place par énormément de sociétés qu'on a pu croiser lors du FIC. Intéressant aussi, c'était les conversations qu'on a pu avoir d'ailleurs avec Nicolas, que ce soit avec la CNIL ou avec cybermalveillance.gouv.fr, qui ont pu permettre aussi comment ils mettaient eux-mêmes en place hein, pour des PME, PMI, mais on en reviendra tout à l'heure. Et donc, Asenfo Ferrara, eh bien, il a travaillé sur la RGPD, mais maintenant, son nouveau cheval de bataille, c'est protéger les lanceurs d'alerte concernant les failles informatiques. Parmi ses nombreux exemples, il nous a parlé des Pays-Bas. Et on lui a demandé donc pourquoi ce pays basé dans le nord de l'Europe était un modèle du genre pour la protection des lanceurs d'alerte.
C'est surtout une façon d'éducation, je pense. Ils sont les pays au monde où il y a le moins de cybercriminalité. Ils sont 14% à être touchés seulement. Et donc le gouvernement y tient beaucoup. Par exemple, pour tout ce qui est les divulgations responsables de vulnérabilité logicielle. Et donc, ils sont le seul pays au monde où les chercheurs de failles sont protégés et il y a des procédures très claires pour remonter les failles logicielles qui ont été retrouvées.
Alors, comme tu peux voir, Nicolas, intéressant quand même son regard. Pour lui, il est indispensable aujourd'hui de protéger les lanceurs d'alerte. Hein.
C'est essentiel, puis je trouve ça fort intéressant puisque ça donne enfin un cadre clair pour les lanceurs d'alerte au lieu d'avoir des pirates voyous. On se trouve dans un contexte où les règles du jeu sont annoncées, publiques. Donc, à ce moment-là, on sait à quoi s'attendre.
Alors, ce qui va être très intéressant, on va pouvoir, au moment où vous écoutez le podcast de la French Connection, vous allez pouvoir télécharger eh bien, le rapport d'Asenfo. Il vient de publier avec le CEPS Tax Force un rapport sur la divulgation des vulnérabilités en Europe. Alors, c'est une véritable mine d'idées et de règles qui devaient être appliquées dans les années à venir pour une loi dédiée à la protection des lanceurs d'alerte. Du coup, nous lui avons demandé pourquoi une législation dédiée aux lanceurs d'alerte était indispensable.
Ce qu'on a fait dans le rapport que nous avons rédigé avec CEPS, c'est on a dit que c'est très important d'avoir des législations là-dessus pour protéger ces lanceurs d'alerte, pour exactement éviter le pen test sauvage. Il faut que tout ça soit encadré de façon claire par le marché. Donc les acteurs de marché, les industriels doivent avoir des procédures claires qui sont décrites dans leur site web, par exemple, pour que les gens puissent trouver des failles et lancer des alertes de façon à ce que, par exemple, en France, l'ANSI soit au milieu de la boucle, les certes, sinon, pour que la chose puisse se faire de façon légale, bien faite, pour qu'il y ait des patchs, pour que personne soit en fait en position vulnérable dans tout ça. Bah, la France est le deuxième pays le plus important dans le monde dans ce cas, parce que la seule chose qu'il ne fait pas en ce moment, c'est protéger totalement le lanceur d'alerte et les chercheurs de failles. Mais sinon, les procédures en France sont très bien. Et le problème, c'est que le monde cyber ne connaît pas de frontières, et donc être protégé en France ou aux Pays-Bas ne suffit pas si on n'est pas éduqué complètement pour savoir où trouver les problèmes. Donc, si on va par la sensibilisation et par l'éducation, on peut avoir un espoir de, comment dire, pas de résoudre la situation, mais d'être dans une meilleure situation dans une dizaine d'années. Et, mais ce n'est pas que la législation qui va résoudre la situation, c'est les incitations et surtout l'éducation et la sensibilisation.
Ouais, donc tu vois, c'est vraiment, c'est voilà, ça y est, c'est enfin rentré, eh bien, dans les rouages des différentes têtes de nos élus, des législations en devenir. En tout cas, moi, je trouve ça plutôt cool, hein, parce que bon, je vais pas vous le cacher, ça fait 25 ans que je suis dans ce milieu, en tout cas, en tentant d'être un lanceur d'alerte le plus propre et le plus efficace possible. Je pense que ça sera une législation qui sera intéressante aussi pour tous ces gens qui font du pentest sauvage, on en parle souvent, mais il ne faut pas être dupe, ça existe. Et donc, du coup, s'ils prouvent qu'ils font ça pour véritablement aider, qu'une loi les protège, je trouve ça plutôt bien foutu.
Mais au-delà du fait qu'une loi qui les protège, qui est déjà bien, c'est ça demeure un encadrement clair, autant pour les entreprises que pour, justement, les lanceurs d'alerte et ceux qui font des pentests plus ou moins autorisés dans ce cas-ci. Donc, on a un bénéfice pour tout le monde, puis ça va enlever un peu ce qu'on voit aux États-Unis, où les compagnies vont avoir tendance à vouloir poursuivre les lanceurs d'alerte au lieu de collaborer avec eux. Dans ce regard-là, c'est le fun que l'Europe, en tout cas, a un intérêt à légiférer pour encadrer au lieu de juste laisser le marché se régler par lui-même, ou en tout cas s'organiser par lui-même, ce qui, de toute apparence, aux États-Unis, ne donne pas des résultats qui sont favorables et qui ne sont pas bénéfiques à la collectivité.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va obliger les entreprises à un petit peu mieux réfléchir aussi comment communiquer en cybersécurité, comment communiquer avec ces gens qui veulent donner un coup de main. On en parlait d'ailleurs avec Nicolas Ruff, c'est l'un des responsables du podcast avec qui on a partagé un moment de convivialité au FIC, et il nous expliquait justement, il nous rappelait aussi le security.txt, ce fameux petit fichier qui devrait être dans tous les serveurs, tous les sites internet, qui permettra à un lanceur d'alerte quel qu'il soit, à vous, toi, moi, nous, en tout cas toute personne se considérant comme cybercitoyen, eh bien, via ce petit fichier security.txt, dedans, on y trouve toutes les coordonnées des gens à contacter, le CERT, par exemple, ou le RSSI, en tout cas, la personne peut être en cours de cybersécurité au sein de son entreprise, donc ça veut dire qu'on pourra joindre n'importe où. Et ça, c'est un outil plutôt sympathique. Deuxième outil, et ça, on l'a vu lors du Forum international de la cybersécurité, eh bien, ce sont les bug bounty. Et preuve que l'idée gagne du terrain, en France et en Europe, le bug bounty qui a été mis en place lors du FIC par Yes We Hack. Alors, un bug bounty qui était dédié aux ONG comme la Croix-Rouge. Alors, on ne présente plus cette ONG hein, qui vient en aide aux personnes en difficulté partout dans le monde. Eh bien, du coup, on s'est dit, on va poser la question, que vient faire une ONG, là, lors d'un bug bounty? Pourquoi est-elle venue mettre son application dans les mains d'inconnus, des inconnus certes triés sur le volet, mais des inconnus quand même? Alors, on lui a posé la question, voici la réponse.
Un bug bounty, il y a un cadre, l'avantage c'est vraiment le cadre, c'est-à-dire que c'est nous qui définissons le périmètre, on définit les règles du bug bounty, qu'est-ce qu'on accepte comme bug, qu'est-ce qu'on veut pas voir parce qu'on est déjà au courant ou parce que c'est plus des bonnes pratiques que du vrai danger. Et du coup c'est le cadre et puis on sait qu'on est affaire à des hunters qui sont professionnels, qui ont tous une bonne expérience dans le piratage éthique et du coup on est en sécurité et en même temps on bénéficie de leur expérience.
Alors tu vois Nicolas, hein, c'est plutôt intéressant de voir que en tout cas chez nous, en France, on a vraiment cette fibre aussi humaine. On s'est dit pourquoi ne pas aider, et Yes We Hack s'est dit pourquoi ne pas proposer, en plus à des gens qui aiment la chasse, les hunters de failles, pourquoi ils ne donneraient pas un coup de main aussi, gratuitement, bénévolement, en tout cas, à une ONG? Moi, je trouve ça plutôt phénoménal.
C'est très intéressant. Puis en plus, ce qui est clairement mentionné dans son énoncé, c'est que c'est clair ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Et c'est souvent un problème énorme parce que dans les bug bounty moins encadrés, comme contrairement à celui-là, c'est que les gens vont chercher de façon aveugle et partout. Dans ce cas-ci, les autres avaient vraiment des directions claires et des énoncés clairs dans lesquels ils voulaient opérer aussi. Donc, fort intéressant parce que, la personne qui cherche, ça dirige, puis ça évite pour la compagnie, dans ce cas-ci la Croix-Rouge, de mettre des énergies à devoir répondre, à devoir travailler avec des gens qui auraient aimé se faire reconnaître, mais pour des choses qui sont déjà connues ou des choses qui sont déjà en place.
Alors, ce qui est plutôt chouette aussi, hein, c'est que les bug bounty, alors là, on parlait de Yasuyak, mais il y en a plein d'autres, hein, comme Yogosha, par exemple. Eh bien, ces bug bounty vont permettre quoi? Bien, vont permettre à tous ces fans de cybersécurité ou dans tous les cas d'informatique, eh bien, d'abord, de se mettre une petite ligne sur leur CV. Hein, soyons très clairs, c'est pas négligeable. Ça peut rapporter des sous, ça permet de s'entraîner et ça évite d'avoir les amis du petit déjeuner qui viennent taper à la porte parce qu'ils pensent qu'on a peut-être fait une grosse bêtise. Donc ça, je trouve ça vraiment très chouette. À noter deux infos à ce sujet, en tout cas au sujet de ce bug bounty mis en place au Forum international de la cybersécurité. D'abord, quelques problèmes ont été trouvés, dont une faille importante qui a pu être corrigée grâce à ce bug bounty de YesWeHack. Donc là, ben, bravo, hein, franchement, soyons très clairs, applaudissons des quatre mains. Et à noter aussi que l'armée française, par le biais du ministère de la Défense, vient de lancer un bug bounty pour tester certaines de ses applications. Et ça, je vais être très clair avec vous, il y a encore 15 ans, j'en parlais avec mon ami Freeman, on se connaît depuis des siècles et des siècles, même à une époque où on nous regardait avec un œil si limite il n'y avait pas un petit viseur qui visait notre front parce qu'on faisait, entre guillemets, peur. Eh bien, moi, je dis chapeau Freeman, chapeau à ton équipe, chapeau Corben, parce que, eh bien, le ministère de la Défense qui fait appel à un bug bounty, donc à des white hats, donc à des hackers, donc à des cybercitoyens pour tester certaines applications, eh bien, what the fuck, quelle évolution, et ça fait super plaisir.
Franchement, beaucoup, puisqu'on est dans un univers où on arrête de persécuter les gens qui veulent offrir leur aide gratuitement ou semi-gratuitement. Et au lieu d'encourager les gens à faire des hacks négatifs, des hacks qui peuvent causer des dommages pour avoir une réputation, dans ce cas-là, on leur donne un chemin légitime, légal, pour pouvoir démontrer leur capacité, leurs intentions, qui, dans ce cas-ci, est positive. Puis, on a eu beaucoup d'éléments par rapport au bug bounty. On a aussi rencontré une grande firme.
Oui, alors justement, côté grande firme, pourquoi ne pas aller poser quelques questions à Microsoft? Après tout, ils étaient là, il y avait le grand patron, hein, directeur technique et de la sécurité Microsoft France présent. On a été reçus très bien, soyons très clairs. D'ailleurs, je tiens à remercier le rattaché de presse qui a été adorable. Alors, on a été poser quelques questions à Bernard Ourgan-Luant et on lui a dit, ben voilà, on a parlé de loi, on a parlé de lanceur d'alerte, on a parlé de bug bounty. Donc, du coup, on a été demandé au gérant américain, qui était donc présent au FIC, vous faites du cloud, vous faites de la cybersécurité. En plus, on a pris un petit peu l'angle santé, parce qu'on sentait que ça titillait beaucoup de sociétés, hein, de parler de la protection des données, de la santé. Et donc, du coup, on a été demandé comment des hôpitaux, des médecins, des kinés, des laboratoires pouvaient utiliser le machine learning pour travailler sans risque de se faire piller leurs données. Microsoft, on se doute bien, ils n'allaient pas nous dire « Oh mon Dieu, faites pas ça », ils ont été plutôt rassurants. Mais du coup, ça permet d'avoir quelques lumières, en tout cas pour les gens qui ne sont pas noyés dans le nuage.
En fait, le paradoxe, c'est que pour nous, ce qu'ils font, c'est une boîte noire complète. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les données, on ne voit pas le code. Les données et le code sont chiffrés à travers des clés de chiffrement qui sont générées automatiquement par le processeur, sachant qu'en fait, il y a une extension du processeur Intel qui s'appelle SGX, mais il y a le même type d'extension qui existe sur AMD ou sur ARM, qui permettent en fait de créer une zone en mémoire, qui est une zone qui est entièrement chiffrée. La clé de chiffrement est générée automatiquement par le processeur lors du reset, donc quand on le démarre. Et en fait, cette zone, elle est totalement inaccessible par qui que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, nos clients fonctionnent comme si on était finalement une sorte de fournisseur de calcul, fournisseur de stockage, mais la totalité des données qui entrent dans le processeur, elles sont chiffrées, seul le processeur est capable de les voir, elles ressortent chiffrées, donc en fait nous on voit rien. Donc ce qu'ils font, c'est une véritable boîte noire pour nous. Cette technologie, c'est une technologie qui nous permet effectivement de faire en sorte que vis-à-vis de nos clients, il n'y ait pas de crainte du fait qu'on ait accès à leurs données, parce que même si un quelconque régulateur ou une quelconque NSA nous les demandait, on ne pourrait pas les leur donner, parce qu'en fait, on n'y a juste pas accès.
Alors tu vois Nico, hein, c'était vraiment intéressant quand tu, d'ailleurs je regardais tes grands yeux s'illuminer quand deux, trois fois il a parlé de données de santé, de machine learning, de cybersécurité. On va être très clair, hein, c'est un peu comme le serpent dans le dessin animé de Disney qui vous regarde dans les yeux et qui fait « et confiance ». Bon, moi je reste toujours sceptique. Toi qui es un vrai professionnel de la cybersécurité, on peut se dire quand même qu'il y a de plus en plus d'outils et d'armes qui doivent normalement protéger toutes ces données.
C'est intéressant qu'ils mettent de l'avant toutes les technologies qui, eux, mettent en place justement pour protéger ces données-là. Dans ce cas-ci, il est allé très technique, ce qui était quand même étonnant pour une personne de sa hauteur dans l'organisation, mais fort intéressant de voir à quel point il est en maîtrise de son sujet. C'est pas grand-chose à dire sur le fait qu'effectivement, ces éléments de mémoire-là, je sais que d'autres compagnies vont utiliser des HSM, entre autres, pour chiffrer, Apple est très fort là-dessus, fait qu'ils ont des, ils ont quand même des processus robustes et prouvés. Comme j'avais dit dans le podcast spécial Poutine, Microsoft n'est pas d'une très grande maturité encore dans ce niveau-là, mais on voit clairement qu'ils mettent les efforts, on voit clairement qu'ils ont une volonté de rentrer sur ce marché-là. Ils font les choses proprement, correctement, d'entrée de jeu, au lieu de faire plus une expérimentation comme Amazon a eu à expérimenter pendant plusieurs années où ils ont essayé des choses qui ont moins bien fonctionné ou dans lesquelles ont très bien fonctionné aussi. Donc, c'est fort intéressant. Mais ce qui nous mène aussi sur le fait que, quand même, puis ça fait une référence directe à ton panel, à ton second panel du FIC, tous les PME, PMI et TPE, Microsoft a quand même un regard qui, pour moi, est inusité sur le sujet.
Oui, complètement. D'ailleurs, il était très marrant, hein, ce Bernard Ourgan-Lyon. Je vais être très honnête avec vous. Ça fait plaisir à voir parce que, qu'on le veuille ou non, au FIC, on avait beaucoup de gens avec des jolies cravates et des jolies vestes qui étaient d'un chiant, mais qui étaient d'un chiant, pardon du titre et du gars. Hein, mais voilà, je suis clairement avec vous. Et donc, il était très rigolo aussi, c'est quand il nous a parlé de la NSA. Parce qu'à un moment, je lui pose une question. D'ailleurs, on lui pose tous les deux une question et on lui dit « Oui, mais si dans votre cloud, je mets mes données, comme vous êtes américain, quels sont les risques ?» Et puis, il a été très clair. Il dit « De toute façon, si la NSA les prend, on ne sait pas. Et puis, même si on vous dit qu'il ne les prend pas, vous ne nous croirez pas. » Donc, ça revient toujours au même. Donc, il était très marrant. Et du côté plus sérieux, comme on parlait de cybersécurité avec Microsoft, hein, du coup… Comme tu disais, Nico, on lui a demandé quelques infos sur les PME, les PMI, les TPE. Alors, pour rappel, c'est les petites et moyennes entreprises et industries et les très petites entreprises. Donc, ça veut dire souvent que ça ne dépasse pas deux employés. Et donc, du coup, les petites et moyennes entreprises considérées quand même, faut-il le rappeler, comme les parents pauvres de la cybersécurité, car n'ayant pas les budgets, les hommes, ni le temps de se pencher sur ce sujet. Eh bien, pourtant, pour Bernard Ourgan-Lyon, oui, on est devenus amis, on se parle comme ça, mais je rigole. Plus sérieusement, Bernard Ourgan-Lyon, eh bien, pour lui, les PME sont mieux protégées que certaines grosses sociétés.
Je pense que beaucoup de clients dépensent beaucoup d'argent en sécurité pour rien. Et en fait, la raison pour laquelle ils dépensent beaucoup d'argent en sécurité pour rien, c'est d'une part parce qu'ils ne font pas les bases. Donc typiquement, je gère correctement mes mots de passe et j'évite de choisir des mots de passe de deux caractères ou le nom de mon chien. Ou je gère correctement mon environnement, c'est-à-dire que quand un correctif de sécurité arrive, je l'installe. Et en fait, quand on regarde l'immense, immense majorité des cas de hacking des très grandes entreprises, c'est juste lié au fait que ils n'ont pas le minimum d'hygiène informatique vitale pour être capable de se protéger. Parce que l'expérience prouve que quand un client est attaqué, s'il résiste un peu, c'est-à-dire que c'est pas trop facile de le hacker, en général, le hacker va voir ailleurs. Il reste pas à essayer, sauf s'il a un objectif précis sur le client en question. Donc ça, c'est la première raison. Et il y a une deuxième raison qui est que je pense que la plupart des grands clients dépensent énormément d'argent en accumulant les solutions de sécurité les unes au-dessus des autres. Ils se donnent une fausse idée de la sécurité, ils se créent une sorte d'illusion en se disant plus j'en ai, mieux ça sera. Mais en fait, le résultat, c'est qu'en fait, on complexifie tellement le système d'information et sa sécurité que du coup, ça devient totalement ingérable. Donc paradoxalement, la PME qui n'a pas beaucoup d'argent, elle dépense son argent pour des sujets qui sont vraiment utiles. En général, elle ne se pose pas des questions sur le fait qu'il faille installer des patchs, elle le fait. Et donc bien souvent, les PME, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont mieux sécurisées que les plus grandes entreprises.
Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Nico, mais c'est quand même très étonnant d'entendre ce discours. Hein. Alors, on ne va pas se leurrer, hein. Effectivement, quand lui dit ça, c'est qu'il espère que tout le monde est sous Windows et que tout le monde utilise le upgrade, les mises à jour. Mais après tout, il n'a pas si tort que ça quand on se dit que les PME n'ont pas les moyens de mettre 50 000 briques de cybersécurité. Et il suffit qu'il y en ait une qui casse. On prend juste les clouds d'Amazon, hein, qui sont super sécurisés, mais si quelqu'un oublie de mettre la sécurité pour pas y accéder, eh bien, on a toutes les données de l'entreprise qui peuvent fuiter. Voilà, je trouvais que son discours était plutôt intéressant.
C'est un regard intéressant, effectivement, sur la sécurité pour les PME, PMI, TPE. Par contre, lui assume que, comme ces compagnies-là n'ont pas nécessairement les gens, ils vont tous procéder, ils vont tous exécuter l'hygiène de base, systématiquement et sans se poser de questions. Ça, je suis légèrement en désaccord, pas autant qu'effectivement, ils vont faire aveuglément, mais autant que, comme ils ont peu ou pas de moyens, souvent, ils n'ont même pas de personnes, surtout pour les TPE, ils n'ont pas de personnes dédiées juste pour la gestion de leur informatique. Il est peu probable qu'ils mettent à jour systématiquement leur machine, systématiquement les antivirus, systématiquement utilisent les différents éléments de sécurité. Donc, il y a peut-être au moins une nuance à porter sur ce qu'il fait, mais en même temps, pour avoir vu des grandes entreprises, effectivement, le capharnaüm que ça génère avec la quantité de logiciels, d'outils, le fait que souvent on dit la main gauche ne parle pas à la main droite, que certains secteurs entiers ignorent ce qu'un autre secteur fait. Donc, dès lors, oui. Mais en même temps, ils ont la capacité de former, ils ont la capacité de la veille, ils ont la capacité de savoir la menace. Donc, la réponse pour moi se situe entre les deux, pas tout à fait où il la met, mais mitoyen entre le fait effectivement que les grandes entreprises parfois perdent un peu, se concentrent pas sur les bonnes choses, mais en même temps, ils ont les capacités, les moyens et de mettre en place. Et souvent attirent les meilleurs talents aussi en sécurité, donc sont capables d'arriver plus loin que ce que les PME, PMI, TPE sont capables de faire. Et sans avoir divulgué, mais sans un grand secret pour lui, c'est qu'il assume que ces petites entreprises utilisent un cloud qui fait une partie du travail pour eux, dont le cloud de Microsoft Azure.
Donc voilà, ouais, on était vraiment dans... Voilà, on parle, on donne quelques conseils et puis ça vendait pas mal hein, sur ce FIC, hein, soyons très clairs. Mais comme on a pu nous le dire souvent, oui, après tout, c'est un salon de professionnels. Donc voilà, Nico, j'espère que nos éditeurs ont apprécié notre petite promenade. Alors bien sûr, ils n'ont pas pu apprécier la poutine. On vous laisse écouter hein, notre podcast spécial poutine à Lille. Oui, j'ai osé amener notre Québécois et bien dans un restaurant lillois. Je vais être très honnête avec vous, si vous avez l'occasion, envoyez-moi un petit mail, je vous donnerai l'adresse. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nico, de toute façon, tu nous l'as dit. Voilà, tu as adoré. Hein. Alors je ne dirai pas oui. Le nom parce qu'on s'est moqué de moi, on ne dit pas la look.
Non, c'est pas la look, c'est la look. Comme la chance.
Bref, en tout cas, on a eu énormément de chance de passer ces deux jours ensemble. Hein. Ça a permis de découvrir plein de choses. Je vais me permettre de saluer deux personnes qui nous ont permis de nous promener partout, qui m'ont aussi invité à faire plusieurs conférences. D'abord, c'est le général Angoir et les équipes de CIUS, hein, qui sont les organisateurs du Forum international de la cybersécurité. Déjà, c'était important de les remercier. Après tout, je n'ai rien à vendre et je n'ai rien à leur acheter. La confiance est là. Et franchement, encore merci de nous avoir permis de faire tout ça. Et puis aussi, la reine des cavalières. Je pense qu'elle va se marrer quand elle va m'écouter. Ainsi que ses padawans, c'est Laetitia Percher. Si elle est un petit peu perchée, mais ça, on ne peut pas lui dire. Mais plus sérieusement, Laetitia et son équipe de padawans, merci. C'est de l'agence Oxygène. C'est eux qui gèrent la communication. Et franchement, dès qu'on avait besoin de quelque chose, un espace pour travailler, un espace pour enregistrer, un espace pour rencontrer des gens, un espace pour manger, eh bien, ils étaient présents. Voilà, c'est simple. Hein. Gros bisous.
Oui. J'ai adoré, fait que à la prochaine. J'espère peut-être y retourner l'année prochaine aussi.
We'll be right back.